Donc ce matin, on va lire et parler du 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Corinthiens chapitre 12. Je ne sais pas si vous étiez là et si vous vous souvenez, il y a 15 jours, on avait parlé ensemble de la première partie du chapitre 11, qui est à la source de nombreux débats, de beaucoup de polémiques dans le monde chrétien. Parce qu'il était question de la soumission, du port d'un couvre-chef par les femmes, qui sont des sujets explosifs dans notre société. La semaine dernière, Michel a lu et commenté la deuxième partie de ce chapitre 11, qui nous montrait que les chrétiens à Corinthe n'étaient pas unis, qu'ils n'étaient pas aimants les uns envers les autres. Et ils prenaient le repas du Seigneur dans l'indifférence, dans le mépris. Ils avaient des pensées de division. Et tout ça n'était pas à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, on va aborder une nouvelle partie dans cette première épître aux Corinthiens. Et les enseignements qu'on va voir sont eux aussi à la source de beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques, de débats dans le monde chrétien. Depuis le début du XXe siècle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une centaine d'années à peu près, certains partisans d'une certaine interprétation de ces textes sont apparus, d'autres en font une lecture qui est, on pourrait le dire, peut-être un peu plus traditionnelle et qui correspond davantage à celle qui était dans les siècles précédents. Mais on va voir que dans les chapitres 12, 13 et 14, il est question des dons spirituels et de leur rôle, et surtout des dispositions de cœur avec lesquelles ces dons doivent être mis en œuvre et mis en pratique. Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans la lecture, en particulier du chapitre 12, mais on va le voir aussi au chapitre 13 et 14 dans la suite, c'est que ces passages contiennent les appels à l'amour et à l'unité qui sont parmi les plus forts, peut-être même les plus forts de toute la Bible. Mais ce sont les passages qui suscitent le plus de divisions dans le corps de Christ. C'est à cause de ces passages-là que les chrétiens se disputent le plus, alors que ce sont les passages qui font appel à l'amour et à l'unité. Et la raison de ça, c'est que, de manière générale, on s'est davantage attaché à parler de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Alors c'est sûr, on pourrait faire, en abordant ces passages, on pourrait faire des grands exposés de doctrine. On pourrait expliquer avec beaucoup d'arguments, en citant beaucoup de passages, comment chaque don est censé se manifester ou ne pas se manifester. On pourrait faire pendant des heures des leçons de théologie sur les dons spirituels. Mais ce n'est pas la façon dont Dieu lui-même s'y prend pour nous enseigner ces choses-là. Dans ces passages, il commence par nous parler de nos dispositions de cœur. Et d'ailleurs, donc les chapitres 12, 13 et 14, qui représentent un seul et même ensemble dans cette épître aux Corinthiens, ils ont pour point culminant le chapitre 13. Et le chapitre 13 d'un Corinthien, c'est un hymne à l'amour. Alors avant de commencer cette lecture, je voudrais citer un reproche qu'un jour le Seigneur Jésus a fait à des hommes religieux. Il leur a dit: malheur à vous, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, et qu'à l'intérieur ils sont pleins de rapines et d'intolérance. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. On va essayer ce matin de s'attacher plutôt à l'intérieur de la coupe et du plat, c'est-à-dire de nos cœurs, avant de voir ce que ça doit être à l'extérieur. Donc je propose de lire ce chapitre 12 de 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres est également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. On arrête là la lecture pour ce matin. La première chose qu'on a lue dans ce texte, c'est que Paul ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Ça veut dire que c'est une bonne chose d'en parler, c'est une bonne chose d'étudier ces sujets-là, et il ne faut pas qu'on reste dans l'ignorance à leur sujet. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des dons spirituels. Plus exactement, dans le texte grec, le mot « don » n'y est pas. Il est question de choses spirituelles, de choses qui concernent l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important de bien faire attention à cela. Il est question, là, vraiment de choses spirituelles, de capacités spirituelles. L'apôtre Paul n'est pas en train de parler de nos capacités naturelles. Tous les êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou non, ont des capacités naturelles. Il y en a qui sont doués pour le dessin, d'autres pour la musique. Il y en a... c'est les maths, la physique, le bricolage, l'histoire, la philo. Il y en a qui sont naturellement pédagogues. Il y en a qui sont doués pour la recherche. On peut avoir aussi naturellement une certaine facilité pour les langues. Tous les êtres humains ont des capacités différentes, plus ou moins développées en fonction des personnes, et ça va dépendre de notre éducation, de notre milieu, de notre culture. Et ces capacités-là, elles sont naturelles. Tous les êtres humains en ont. Elles sont données par Dieu, mais ce n'est pas de ça que parle l'apôtre Paul ici. Les questions de dons spirituels. Il est écrit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il veut. » J'ai dit, les capacités naturelles, tout le monde en a. Mais là, les dons spirituels, tout le monde n'en a pas. Il n'y a que ceux qui sont enfants de Dieu. Tous ceux en qui l'Esprit de Dieu est venu habiter, qui ont ces capacités spirituelles. Alors, il n'est pas dit non plus que seulement certains chrétiens ont reçu des dons. Mais il est bien dit à chacun des chrétiens. Si vous êtes enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu vous a fait au moins un don, plusieurs dons peut-être, plusieurs dons spirituels. Et ça nous est donné par Dieu à notre nouvelle naissance, au moment où le Saint-Esprit vient habiter en nous. Quel est le but ? Quel est le but que poursuit Dieu en nous octroyant ces dons ? Dans le passage qu'on a lu, la parole dit que c'est pour l'utilité commune. Ça veut dire que si Dieu me fait un don, ça n'est pas pour me bénir moi, mais c'est pour vous bénir vous. Si j'ai reçu un don spirituel, c'est pour que ceux qui m'entourent soient bénis, pour que mes frères et sœurs en retirent un bienfait. Alors je m'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur ce matin. Est-ce que vous savez quel don, au singulier ou au pluriel, quel don Dieu vous a fait ? L'apôtre Paul ne veut pas qu'on soit ignorant de ces choses. C'est-à-dire que c'est important de ne pas les négliger. Quel est le don que Dieu vous a fait pour le servir, pour être utile dans l'Église, pour être utile à tous ? Vous savez, si on néglige les dons spirituels, déjà, on met de côté une grande bénédiction que le Seigneur nous accorde. Et puis, la parole nous dit aussi de rendre grâce en toute chose. On peut rendre grâce pour les dons qu'on a reçus, qui permettent de servir les autres, mais aussi pour les dons que d'autres ont reçus et qui nous sont bénéfiques à nous. Je vais vous dire, je me réjouis quand je vois que Dieu a placé dans l'Église des frères et des sœurs qui ont des capacités techniques, matérielles, bricolage. Je suis complètement dépourvu de ces capacités-là. Alors je me réjouis quand il y en a qui ont ces capacités-là. Il y en a à qui Dieu a fait le don d'un cœur particulièrement compatissant pour aller porter secours. On peut se réjouir de ça. Il y en a aussi qui ont une confiance qui est tellement simple et tellement grande en même temps dans le Seigneur que c'est un modèle et c'est un encouragement pour tous les autres. On peut rendre grâce à Dieu pour ça. C'est vraiment une bénédiction que ces dons, et on doit remercier le Seigneur de nous avoir octroyé des dons spirituels. Et puis quand on s'arrête un petit peu, qu'on regarde dans l'Église comment servent les uns et les autres, quand on s'arrête un petit peu pour réfléchir à ça, on voit tous les services qui sont rendus par les uns, par les autres. On peut remercier le Seigneur de voir qu'il y a des frères et sœurs qui se mettent à l'œuvre, qui cherchent à être utiles. Et on peut prier pour eux, pour qu'ils soient encore plus utiles, pour qu'ils soient en bénédiction à encore plus de monde. Et ça amène de l'amour dans le corps de Christ. Et puis, je crois aussi qu'il ne faut pas ignorer ces dons, il ne faut pas les négliger, parce qu'on va avoir à rendre compte de la façon dont on s'en sera servi. Si on ignore ou si on néglige ces dons que Dieu nous a faits, non seulement on passe à côté d'une bénédiction pour nous et pour les autres, mais Dieu nous demandera compte de ce qu'il nous a donné et de la façon dont on s'en sera servi. On peut demander à Dieu. Si on ne sait pas quels sont nos dons, notre ou nos dons, on peut demander à Dieu de nous l'indiquer et de nous indiquer aussi comment le mettre en pratique. Là, on a lu une liste de dons. Elle n'est pas exhaustive. On en trouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Il y en a dans Romains 12, il y en a dans Éphésiens 4, dans 1 Pierre aussi. On trouve certains de ces dons. Et il y en a plein d'autres encore. Demandons au Seigneur de nous indiquer quel est le don qu'il nous a fait. De quelle manière on peut être utile dans l'Église. Vous savez, si on n'y prend pas garde, on va, peut-être sans le vouloir, mais on va nuire au bon fonctionnement de l'Église. Là, on a lu une grande comparaison de l'Église avec un corps. Un corps qui est formé de plusieurs membres et chaque membre a son rôle à remplir. Imaginez un instant que votre main droite si vous êtes droitier, votre main gauche si vous êtes gaucher, cesse de répondre à votre cerveau. Vous allez vous retrouver handicapé. Une main qui fonctionne plus, c'est un handicap lourd. Et quand dans l'Église, quand dans le corps de Christ, il y a des chrétiens qui ne savent pas quelle fonction ils doivent remplir, c'est un peu comme s'il y avait un membre paralysé. Il ne peut pas servir, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et ça handicape l'Église. Et ça donne même un déséquilibre qui est douloureux, douloureux pour tout le reste du corps. Je connais une personne qui a été, à cause d'un accident, elle a été amputée d'un pied. D'après vous, où est-ce qu'elle a mal? Elle a mal partout. Vous savez pourquoi? Parce que, essayez de vous tenir toute la journée sur un seul pied. Vous allez forcément compenser, votre poids va se porter sur une hanche, il y a le dos qui va être tordu, les épaules, les bras, le cou. Et cette personne que je connais est allée voir son médecin parce qu'elle avait des maux de tête et des maux de dents terribles. Il dit, si vous avez mal à la tête, c'est à cause de votre pied. Si vous avez mal aux dents, c'est à cause de votre pied. Ça peut paraître bizarre, mais parce qu'un membre manque à l'appel, tout le reste du corps doit compenser, doit être déséquilibré. Ça oblige les autres à faire un effort pour lequel ils ne sont pas prévus. Et du coup, tout le reste du corps en souffre. C'est important que chacun connaisse la tâche que Dieu lui assigne pour être utile, là où il doit être. Imaginez que ma main veuille d'un seul coup remplir le rôle de mon œil. Là non plus, ça ne marche pas. On voit qu'il va y avoir un problème. Et c'est pour ça que c'est encore une fois important de savoir où est-ce que Dieu nous veut. Quelle est la place qu'il nous donne? Quel est le don qu'il nous a fait? Parce que sinon on va peut-être essayer de faire quelque chose que Dieu ne nous a pas prévu, on ne va pas être à notre place et ça ne va pas marcher. On a lu que quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand on a mal quelque part, on ne dit pas « j'ai juste, c'est juste ma jambe qui a mal, mais moi je vais bien ». On dit « j'ai mal, je ne vais pas très bien ». Parce que c'est tout notre être qui est impacté. Et c'est la même chose quand on est fatigué. Alors quand on est fatigué, quand on a un membre qui est fatigué, tous les autres viennent au secours, mobilisent leur énergie, leurs ressources pour venir au secours du membre qui est défaillant. C'est normal. C'est à ça que ça sert aussi, le corps. Mais quand un membre est malade, c'est tout le corps qui affaiblit, qui pompe les ressources du reste. Et au contraire, quand tous nos membres sont en bonne santé, ça participe au bon fonctionnement du corps. Donc là, il y a peut-être la première chose à retenir. Dieu accorde à ses enfants un ou des dons spirituels pour bénir les autres membres, pour que tous se portent bien, pour que le corps fonctionne bien. Et la deuxième chose à retenir, il y en aurait plein d'autres des choses à retenir, mais j'en ai retenu essentiellement deux. On va la découvrir, cette deuxième chose, en regardant un petit peu de plus près le cas particulier de l'église de Corinthe. Pourquoi est-ce que Paul s'étend aussi longuement sur l'unité et sur l'entraide alors qu'il est en train de parler des dons spirituels? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas justement un exposé de la façon dont les dons doivent être utilisés. Il aurait pu écrire beaucoup plus longuement sur ces sujets-là. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes assez graves par rapport aux dons spirituels. À Corinthe, on n'ignorait rien au sujet des dons spirituels. Ils n'étaient pas négligés non plus. Peut-être même c'était un petit peu le contraire. Quand on regarde dans le premier chapitre de 1 Corinthiens, on voit deux indications importantes. Il y a un compliment et un reproche. Le compliment, on le trouve au verset 7 du chapitre 1, où on lit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, qu'il ne manque à cette église aucun don. Ils les ont tous. Ils sont dans l'abondance au niveau des dons spirituels. Par contre, on lit aussi un reproche au verset 10, où il les exhorte à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi eux et à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Parce qu'il y avait justement de la désunion, il y avait des pensées divergentes et des rivalités, en particulier à propos de ces dons. Donc, on peut, comme dans l'église de Corinthe, être richement pourvu en dons spirituels et malgré tout, ne pas être des chrétiens spirituels. C'est pas parce qu'on a reçu beaucoup de dons spirituels, qu'on en a reçu un tout court, qu'on est quelqu'un de spirituel. C'est la façon dont on va s'en servir, la façon dont on va mettre les choses en pratique qui va nous indiquer si on est spirituel ou pas. Il y avait à Corinthe beaucoup d'orgueil, beaucoup de désordre, beaucoup de rivalité. C'est à qui aurait le don le plus impressionnant, qui paraîtrait justement le plus spirituel, qui aurait le don le plus visible. Et le but, c'était d'en mettre plein la vue à tous les autres, même s'il fallait pour ça dire des bêtises, et même s'il fallait blasphémer. C'est pour ça que Paul dit, vous savez que quand vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. À Corinthe, ils avaient tellement le désir de paraître spirituels qu'ils prenaient la parole à tort et à travers. Ils disaient qu'ils étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils disaient qu'ils se sentaient conduits à parler de la sorte. Mais l'apôtre Paul leur rappelle que c'est pas... que celui qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit pas « Jésus est anathème ». Il ne maudit pas Dieu, mais au contraire, il le bénit, il le reconnaît comme Seigneur, comme le Maître. Elle leur rappelle aussi qu'avant de connaître Dieu, ils avaient suivi leur inspiration aussi. Et que cette inspiration-là, ils avaient conduit à adorer des idoles muettes. Et c'est bien la preuve que leur inspiration n'est pas digne de confiance. Pour nous, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il ne faut pas confondre nos sentiments avec l'inspiration de Dieu. Il ne faut pas confondre les élans de notre cœur, nos pensées, et même si ce sont des sentiments parfois très forts, ils ne sont pas forcément synonymes d'inspiration divine. Parfois ça peut l'être, mais ça n'est pas automatiquement le cas. Et si on suit nos propres cœurs, nos propres inspirations, il faut oublier que par nature, ils sont empreints du péché. Si notre don est spirituel, il va s'exercer en accord avec la parole de Dieu, toujours. Il ne va rien faire, rien nous pousser à faire qui soit un déshonneur pour Dieu. Rien qui occasionne un mal à un frère ou à une sœur. Toutes nos pensées, tous les élans de notre cœur ne viennent pas du Saint-Esprit. Si ça vient contredire la parole de Dieu, c'est qu'on n'y est pas. C'est notre chair, c'est notre nature propre, peut-être même c'est le diable qui peut nous pousser à agir. Donc quand on lit que l'apôtre Paul ne veut pas que les Corinthiens soient ignorants au sujet des dons, il veut dire aussi qu'ils ne doivent pas être ignorés que ces dons viennent de Dieu et qu'ils sont là pour servir à la gloire de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on est dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, à chaque chapitre, à chaque prédication, ou presque, on en tire la même conclusion, le même enseignement. C'est un chrétien, son but et sa motivation, ça doit être de chercher la gloire de Dieu et d'aimer son prochain, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme lui-même. Et c'est la conclusion qu'on tire presque à chaque fois, c'est la solution à presque tous les maux que l'Église peut rencontrer. J'ai dit en introduction que ce passage sur les dons spirituels, il a occasionné beaucoup de divisions dans le corps de Christ. Et c'est le cas parce que tous ne sont pas d'accord au sujet de certains de ces dons, sur le fait que Dieu les accorde encore ou qu'il ne les accorde plus ou qu'il les accorde différemment. Tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont ils sont censés se manifester ou ne plus se manifester. C'est vrai que c'est un sujet important. C'est un sujet qu'il faut étudier, mais il faut faire attention à ne pas le faire de la mauvaise manière. La semaine dernière, Michel nous avait beaucoup exhorté dans la parole de Dieu à être unis, à être aimants les uns envers les autres. C'est ce que représente le repas du Seigneur. Tout à l'heure, on a pris le pain, on a pris le jus de raisin. Son symbole du même corps qui a été brisé, parce qu'on fait partie d'un même corps. À Corinthe, il y avait des divisions, et on a lu au chapitre 11 la semaine dernière que Dieu a châtié, qu'il a jugé, qu'il a châtié les Corinthiens. Ça a été quoi ce jugement? Qu'est-ce qu'il a envoyé? La maladie et la mort. Pourquoi? Parce que quand il y a des divisions dans le corps de Christ, c'est une maladie. Et si on n'y prend pas garde, ça mène à la mort. Une église peut mourir si elle laisse des divisions s'installer. Alors, j'ai dit tout à l'heure, là, dans le chapitre 12, il y a une liste de dons. Cette liste est très loin d'être complète, mais cette liste, elle n'est pas du tout au centre de ce passage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais justement, au milieu de cette liste, il y a une expression qui revient 8 fois. 8 fois sur 6 versets. C'est le même Dieu, le même Seigneur, le même Esprit. C'est répété 8 fois sur 6 versets. Si on a des désaccords à propos des dons, ça peut arriver d'avoir des désaccords. Mais que ces désaccords, ils se transforment en des rivalités, en des querelles. On n'est plus dans l'attitude de chrétiens qui servent le même Dieu et qui servent dans un même esprit. Il y a un verset qu'on reprendra la prochaine fois qu'on va étudier cette épître. C'est le verset 31, le dernier verset du chapitre 12, où la parole de Dieu nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. C'est lesquels les dons les meilleurs ? L'apôtre Paul, il dit pas quels sont les dons les meilleurs. Par contre, il dit les fruits que portent les dons les meilleurs, ce sont ceux qui contribuent à la paix, à l'union, à l'amour dans le corps de Christ. Les dons les meilleurs, ce ne sont pas ceux qui nous apportent de la notoriété, ce ne sont pas les dons les plus visibles. Ce ne sont pas ceux qui prêchent qui ont les dons les meilleurs. Pas forcément. On a tous reçu des dons différents, mais les dons les meilleurs sont ceux qui sont manifestés avec amour. Dans Philippiens 2, Paul dit aux chrétiens d'avoir une même âme, une même pensée, un même sentiment. Alors, une question que chacun doit se poser. Si vous êtes enfant de Dieu, de quelle manière est-ce que vous pouvez personnellement contribuer à l'amour, à la paix, à l'unité dans le corps de Christ. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Regardez autour de vous, devant vous, derrière vous. Vous avez des frères et des sœurs qui sont assis à côté de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour leur faire du bien? Pour qu'ils bénissent Dieu à votre sujet. Dieu a disposé ses dons de manière à ce qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si j'ai reçu un don, il doit servir pour les autres, pour faire du bien aux autres. C'est comme ça que Dieu va être glorifié. Alors peut-être que vous ne savez pas encore quel don vous avez reçu. Mais le meilleur moyen de le découvrir, c'est de chercher à faire du bien autour de soi. Encore une fois, regardez les personnes qui sont autour de vous et demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez les bénir. De quelle manière concrète vous pouvez leur apporter de l'aide. Et mettez-vous à l'œuvre. Parce que ce don, il faut que les autres le voient. Et c'est quand l'Église le verra qu'elle pourra dire avec assurance, oui, telle personne a reçu ce don-là. C'est évident. Et vous pourrez être sûr que vous êtes à la bonne place aussi dans le corps de Christ. Alors on vient d'expliquer en partie, on n'a pas tout dit sur ce passage. On vient de l'expliquer seulement en partie, c'est un passage qui est vraiment délicat. J'ai pas beaucoup parlé des dons en eux-mêmes, mais plus de ce qui doit nous animer pour mettre en pratique ces dons. Le but que poursuit le Seigneur, c'est que le corps de Christ fonctionne bien. Et chacun doit contribuer à sa tâche. Je l'ai répété plusieurs fois, ce passage a causé beaucoup de désaccords entre les chrétiens. On peut être en désaccord sur certains points de doctrine. C'est vrai, hein ? On peut ne pas tous être d'accord sur certains sujets. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu, elle ne dit pas d'aimer tout le monde, sauf ceux qui ont un avis différent du nôtre. Et pour terminer, je voudrais citer un verset qui se trouve dans Philippiens 3, au verset 15 et 16, Philippiens 3, 15 et 16, nous indique un petit peu de quelle manière on doit procéder justement quand il y a un désaccord au sujet d'un point de doctrine. Paul disait donc aux Philippiens, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. » Sous-entendu, ayons cette même pensée quand nous ne sommes pas d'accord. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. La solution de Dieu quand il y a de la division et de la mésentente, c'est la prière. Si je suis en désaccord avec quelqu'un, eh bien, je dois compter sur Dieu pour l'éclairer au sujet de ce que je pense être la vérité. Et puis, par humilité, je dois aussi rester ouvert au fait que je peux me tromper aussi et que j'ai à recevoir d'autres personnes. Voilà donc un passage qui fait beaucoup de polémiques. On aura l'occasion d'en reparler au chapitre 13, au chapitre 14 aussi. Mais si on est d'avis différents, ça peut arriver. Eh bien, prions Dieu les uns pour les autres, qu'il nous éclaire au sujet de nos désaccords pour nous donner une même pensée, une même âme, un même cœur, et que Dieu soit glorifié dans nos vies et dans l'Église. Amen. Je vous propose de chanter un cantique.